feutrés, masqués et gantés, Radio Couleur Chartreuse s'aventure sur le terrain. Une édition spéciale de 11h à 12h pour vous accompagner pendant cette période de confinement. Nos interviews sont réalisées par téléphone. Prendre rendez-vous au 06 45 00 36 45. Vous pouvez aussi enregistrer vos messages personnels sur votre téléphone portable et nous envoyer votre fichier audio à contact@radio-couleur-chartreuse.org. Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonjour à tous, chartrousins, chartrousines, et bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse. Nous sommes mardi 9 juin. Il est 11h et à 11h, c'est l'heure des convives du 9. Votre matinale, oui, car du lundi au jeudi de 11h à midi, nous vous donnons la parole. Je suis toujours accompagnée de notre fidèle Lucas à la technique. Allez, c'est parti, priorité à ce qui se passe autour de chez vous. Au programme ce matin, dans les convives du 9, une première partie dédiée à l'information, suivie de l'interview de notre convive du jour, Xavier Pénin. Il est entre autres guide de chasse à l'ONF, et avec lui nous parlerons de la faune de Chartreuse et de sa préservation. Pour finir en beauté, une rediffusion du Conseil Culture d'hier et le conte de Nathalie Thomas. Pour rappel, cette matinale est avant tout la vôtre. N'hésitez pas à nous envoyer vos annonces, que vous soyez commerçant, indépendant ou entrepreneur, si vous souhaitez nous parler de l'adaptation de votre activité au contexte actuel. De même pour vous autres, élus du territoire, afin de passer des informations. Vous êtes tous les bienvenus pour partager avec les chartrousins les informations et messages personnels que vous souhaitez diffuser, mais aussi vos idées neuves pour un autre demain. Pour ce faire, une adresse, contact@radio-couleur-chartreuse.org et un numéro de téléphone, le 06 45 00 36 45. Allez, à présent, place à l'actu, c'est l'heure du flash. Dans la série Débat autour des violences policières, on revient sur les déclarations de Christophe Castaner hier soir. Le don de sang lance un appel au don. La récurrence de cette semaine, évidemment, c'est important. On parle aussi sédentarité qui ne rime pas avec santé, proposition de loi sur les violences faites aux femmes et un mot de la baignade. Oui, il pleut, mais ça fait du bien de rêver. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, promettait une réforme en profondeur des inspections du ministère de l'Intérieur, dont l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Pour, je cite, « plus d'indépendance ». À cette occasion, il annonce l'interdiction des clés d'étranglement, mais pas du plaquage ventral au cœur des affaires Traoré et Chouvia. Donc rien non plus sur les LBD, dont les tirs peuvent provoquer des mutilations maintes fois documentées. Interviewé par le journal Libération, Yves Lefebvre, le secrétaire général du syndicat majoritaire Unité CGP Police, appelait à faire preuve de discernement. Les accusations et enquêtes de l'IGPN concernent, selon lui, moins d'1% des policiers. À propos de l'interdiction de la clé d'étranglement, il dit, je cite, « Si Castaner propose une autre technique d'interpellation pour la remplacer, pourquoi pas ? Mais demain, comment va-t-on faire pour interpeller une personne qui prend la fuite, refuse d'être maîtrisée et menottée ?» Il mentionne un manque de moyens humains pour enseigner et réfléchir à d'autres méthodes. On le sait, nos modes de vie sont devenus, pour certains, beaucoup trop sédentaires. Nous nous levons chaque matin pour aller nous asseoir au volant de notre voiture et nous asseoir encore à notre bureau. Bref, difficile d'atteindre le minimum de 2h30 par semaine d'activité modérée ou 1h15 d'activité intense recommandée par l'OMS. Une étude publiée par le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, publié donc mardi dernier, apporte une petite précision à cette affirmation qui, oui, vous me direz, n'a rien de nouvelle, et à savoir que les femmes sont beaucoup plus touchées par cette sédentarité. Car si la proportion d'hommes physiquement actifs est nettement meilleure qu'en 2006-2007, on observe une chute chez les femmes. Non, seules 53% d'entre elles réussissent à atteindre ces recommandations. La situation est encore moins bonne chez les enfants, avec, je cite, seulement la moitié des garçons et un tiers des filles avec une activité physique suffisante. Qu'est-ce qui dure à présent 60 minutes et permet de sauver 3 vies ? Le don de sang est une pratique indispensable qui doit être régulière, car non, le sang ne se garde pas. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour dans le pays, et depuis le déconfinement, les donneurs se font de plus en plus rares. Cécile Ardilous, directrice adjointe de la communication à l'EFS Auvergne-Rhône-Alpes, nous explique comment se passe le don actuellement.
Il faut venir avec un masque ou sinon l'EFS vous en fournit un sur place. Il faut dans tous les cas, de la même manière qu'avant la période de Covid, compter une heure de son temps du moment où on arrive, du moment où on repart de la collecte. Et il faut bien sûr avoir une pièce d'identité avec soi, il ne faut pas être agent. Il faut avoir entre 18 et 70 ans. Et puis après, sur place, nous, on a l'ensemble du personnel qui accueille le donneur, qui lui fait se laver les mains quand il arrive sur la collecte, ou s'il n'y a pas de point d'eau, c'est une solution hydroalcoolique. Et ensuite, tout est mis en place avec des sièges et une distanciation sur toutes les étapes du don, hormis le prélèvement, bien sûr, parce que l'infirmière doit être à côté du donneur pour pouvoir le piquer. Mais sinon, sur tout l'ensemble de la collecte, rien ne change par rapport à d'habitude, hormis la distanciation et la prise de rendez-vous en amont.
Des rendez-vous qui se prennent via le site resadon.fr, resadon.fr, ou bien par téléphone au 04 78 65 63 63.
Il y a souvent une idée reçue dans la population que c'est principalement des accidentés de la route, alors que pas du tout. Il faut savoir que plus de 40% des bénéficiaires de produits sanguins le sont dans le cadre de traitements réguliers de leur pathologie. Donc ça peut être par exemple des personnes qui sont atteintes de maladies du sang. Donc on parle de thalassémie ou de drépanocytose, c'est des maladies au niveau des globules rouges. Et à l'heure actuelle, le seul traitement qui existe, c'est une transfusion de manière régulière, plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par mois, de globules rouges, donc des transfusions de globules rouges. Nous avons ensuite toutes les personnes qui sont en cancérologie, donc qui ont des traitements de chimio ou de radiothérapie. Et malheureusement, ces traitements détruisent certaines cellules sanguines, notamment les plaquettes. Donc il faut leur apporter des transfusions de plaquettes que l'on prélève lors d'un don de sang classique. Et puis ensuite, on a d'autres personnes comme les grandes roulées ou les personnes qui sont atteintes de déficit immunitaire qui vont là pouvoir bénéficier de produits sanguins issus du plasma.
Le stock de poches de sang est actuellement d'environ 85 000 poches au lieu de 100 000 nécessaires dans la région. À présent, le Sénat, qui doit examiner mardi, donc aujourd'hui, la proposition de loi sur les violences conjugales portée par la députée Bérangère Couillard de LREM, qui vise à empêcher les conjoints violents de passer à l'acte. Cette volonté de prévenir les violences sous-tend l'essentiel des lois depuis plusieurs années. Cette proposition émane donc de cette députée LREM et vient clore les travaux du Grenelle des violences conjugales lancé en 2019. Donc gardons en tête que les chiffres sont plutôt désespérément stables. Tous les 3 jours, une femme est toujours tuée par son compagnon. Pour tenter d'y remédier, le projet de loi propose plusieurs dispositifs, notamment la reconnaissance du suicide forcé, la possibilité donnée aux médecins de faire part de leur suspicion de violence au parquet sans l'accord de leur patiente, et certaines restrictions à l'exercice de l'autorité parentale pour les auteurs de violences. Le texte fait donc mention d'une approche préventive, de l'espoir donc, au moins en ce qui concerne les jeunes générations. On s'arrête un instant pour écouter un morceau des Pointer Sisters, le groupe de pop et rhythm and blues américain, connu notamment pour I'm So Excited, un groupe fondé par 4 sœurs, dont Bonnie Pointer, qui est décédée dans la soirée, elle avait 69 ans. Le quatuor a remporté son premier Grammy Awards, une récompense musicale très connue, pour la chanson Fairy Tale en 1975, et c'est ce qu'on écoute tout de suite.
Out the door. You used me. go.
C'était Fairy Tale des Pointer Sisters. Vous êtes sur Radio Couleur Chartreuse. Nous sommes le 9 juin et il est 11h12. C'est l'heure des convives du 9. Et ce matin, nous accueillons Xavier Pénin. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ?
Donc Xavier Pénin, moi je travaille à l'Office national des forêts sur le département de l'Isère. Et mon travail consiste à gérer l'ensemble des questions liées à l'équilibre forêt-gibier et puis aux missions de police de l'environnement.
Très bien, vous êtes guide de chasse. Qu'est-ce que c'est exactement guide de chasse ?
Alors, on a un certain nombre en France à l'Office national des forêts à être guide de chasse, c'est-à-dire que sur certains territoires, nous faisons de l'accompagnement pour des chasseurs sur certains types d'animaux, à la fois pour les guider en montagne notamment, mais ça peut être en plaine aussi, et les faire chasser certains grands gibiers essentiellement, donc comme l'ensemble des ongulés que l'on a en Chartreuse par exemple.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de ce qu'on a comme faune en Chartreuse ?
Alors sur les grands ongulés, on a l'ensemble des espèces présentes en France, hein, puisqu'on a le bouquetin, le chamois, le mouflon, le sanglier, le cerf et le chevreuil. Donc on a l'ensemble des grands animaux présents, des grands ongulés présents sur le territoire français. Et après, on a toute la kyrielle de faune plus petite qui peut être présente, que ce soit la vifaune, d'ailleurs chassable ou non, hein, et puis les petits mammifères aussi que l'on peut avoir sur le massif. Voilà, c'est assez représentatif, on va dire, de la faune française, quoi.
D'accord. On parle beaucoup de chasse de manière générale, mais en Chartreuse, est-ce que c'est une pratique assez répandue ? Et qui chasse, en fait, en Chartreuse ?
Alors, on a... Effectivement, oui, c'est une activité qui est répandue. On a deux types de chasseurs, entre guillemets. On a à la fois des ACCA, donc ce sont des associations communales de chasse agréées, puisque sur, en gros, on va dire une grosse partie sud de la France, ce sont des départements à ACCA obligatoires. Donc chaque commune doit créer une association de chasse qui accueille l'ensemble des chasseurs de la commune sur les territoires communaux et sur les terrains privés, puisque en dessous d'un certain seuil de propriété, la chasse est autorisée sur les... Enfin, les propriétaires ne peuvent pas s'opposer à la chasse, sauf à retirer vraiment leur terrain. Donc, ils chassent à la fois sur le terrain communal, sur les terrains privés, et éventuellement sur les terrains de l'État, donc les terrains gérés par l'ONF, qui sont alors loués aux ACCA. Et puis, on a une deuxième type de chasseurs, qui sont des particuliers, qui vont louer des territoires ONF pour une durée de 12 ans. Et sur lesquels voilà, ils vont pouvoir exercer l'activité de chasse sous le contrôle de l'ONF, bien sûr.
D'accord, donc pour chasser, il faut un permis, il me semble ?
Il faut un permis de chasse, hein, c'est un examen comme le permis de conduire, avec une épreuve théorique et une épreuve pratique. et qui permet ensuite de pouvoir réaliser l'activité de chasse. Encore faut-il après trouver un territoire de chasse.
D'accord.
Donc soit sa commune, si on est habitant de la commune, et soit après on peut prendre donc sur des chasses type ONF ou des chasses privées, c'est-à-dire des personnes qui vont louer leur terrain à des chasseurs.
D'accord. Et concernant donc la régulation, est-ce qu'il y a un nombre d'animaux limités à chasser ou des espèces particulièrement régulées ou ce genre de choses ?
Alors on a à la fois sur les espèces d'ongulés dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut avoir des espèces protégées comme le bouquetin, hein, qui ne sont pas chassables, qui sont espèces gibier mais non chassables. Et puis après, on peut avoir aussi sur le chamois, le mouflon, le cerf et le chevreuil, un plan de chasse. C'est-à-dire qu'en fonction de comptages qui sont réalisés, de certaines informations que l'on va relever sur le terrain, on donne un certain nombre d'animaux à prélever. Et après, on a le sanglier qui, dans l'Isère, n'est pas soumis à plan de chasse, donc c'est illimité, mais qui peut, dans certains départements, aussi être régulé par plan de chasse, donc avec un nombre minimum et maximum d'animaux à prélever.
Et ça, c'est votre rôle, donc de vérifier de faire des comptages et de vérifier que ces plans de chasse sont respectés.
Alors, on participe, nous, effectivement, au comptage avec donc différents partenaires, notamment la Fédération départementale des chasseurs, l'Office français de la biodiversité, avec qui on réalise ces comptages, donc soit des comptages de nuit au phare pour les ongulés, soit ça peut être des comptages au champ pour certains oiseaux, certaines espèces d'oiseaux par exemple, comme le tétralyre.
D'accord, mais ça doit être très compliqué pour le tétralyre par exemple.
Alors c'est des comptages indiciaires, c'est-à-dire qu'on se met sur certaines zones et on compte tout le temps de la même façon, à des intervalles réguliers.
Mm-hmm.
On ne peut pas avoir le nombre total d'animaux, bien évidemment, ça nous donne des tendances d'évolution.
Mm-hmm.
Et en fonction de ces tendances, on va faire varier à la hausse ou à la baisse le plan de chasse.
D'accord, et comment vous faites pour savoir si le plan de chasse est respecté ?
Alors bah là, c'est une autre de nos missions, c'est les missions de surveillance. Alors bien sûr, il y a des systèmes de marquage des animaux. Donc les chasseurs déclarent les animaux qu'ils ont prélevés. Et après, on fait de la surveillance, donc que ce soit nous, que ce soit aussi les gardes de la réserve naturelle, que ce soit les agents de l'OFB, on fait des contrôles, comme on le ferait sur d'autres activités ou comme les gendarmes le font sur les routes, pour voir si les personnes sont en règle.
D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de braconnage ou de chasse illégale ?
Alors, il y en a toujours eu. Je pense qu'il y en aura malheureusement toujours. Après, voilà, on essaye d'être présent sur le terrain pour faire en sorte que les règles soient respectées au maximum. Quoi.
D'accord. Et donc, concernant la chasse a un rôle de régulation de la faune dans le territoire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça marche ?
Alors en gros, l'objectif pour nous, c'est d'avoir un certain équilibre entre le milieu et la faune sauvage. Donc sur les animaux qui sont chassables, aujourd'hui, on peut constater que depuis les années 70, les populations d'ongulés, hein, donc toujours chevreuils, chamois, mouflons et cerfs, ont fortement augmenté. Hein, elles sont multipliées entre 4 et 10 en fonction des espèces sur le territoire français. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, il faut aussi que la forêt puisse se régénérer, puisque ces animaux-là vont consommer des plantes herbacées, mais aussi des plantes arbustives et des arbres. Donc il faut que la régénération puisse se faire. Et si ces animaux sont en trop grand nombre, malheureusement, ils fonctionnent comme une tondeuse, hein, ils vont brouter. Hein, et du coup, derrière, il y a des arbres adultes, mais les jeunes arbres ne peuvent pas pousser. Donc l'objectif de la chasse et des chasseurs, pour nous, les chasseurs sont des auxiliaires de la gestion forestière, puisqu'ils nous aident à faire en sorte que la forêt puisse aussi se développer en harmonie avec les populations d'ongulés.
D'accord. Après, c'est une question peut-être un peu plus complexe, mais en soi, une forêt n'a pas besoin d'être gérée pour exister et pour fonctionner. Et de même pour les populations d'animaux. Qu'est-ce qui fait que leur nombre est trop important ? Pourquoi ça ne se régule plus naturellement ?
Bah, en fait, aujourd'hui, les espèces de prédateurs naturels de ces animaux-là, même si elles sont présentes, elles sont même revenues, notamment, on peut parler du loup, mais on peut parler aussi du lynx, hein, mais elles ne sont pas en nombre suffisant. Et puis les animaux se sont aussi fortement, enfin les ongulés se sont adaptés à la présence de l'homme, et ils ont profité un petit peu, on va dire, de la gestion que l'on fait aujourd'hui. Hein. Il y a encore des prairies, il y a de l'agriculture, il y a de la forêt, donc ces animaux-là trouvent des zones de quiétude, des zones de refuge, des zones d'alimentation. Et il se développe assez facilement. Il, bien sûr, il y a de la prédation naturelle, mais mm-hmm. cela ne suffit pas aujourd'hui pour, on va dire, créer un équilibre.
Un écosystème pour
un renouvellement. Alors, c'est sûr que si on ne faisait rien, au bout d'un moment, c'est comme toute population animale, hein, quand il y a une trop forte concentration, ça va augmenter les maladies mm-hmm. et ça va peut-être faire diminuer d'une façon brutale les populations. Mais pendant ce temps-là, malheureusement, la forêt, elle n'a pas le temps de se régénérer. Mmh. Donc on donne un petit coup de pouce, on va dire, pour maintenir cet équilibre.
D'accord. J'aimerais bien parler de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à travailler à l'ONF ?
Alors moi, depuis la seconde, j'ai fait des formations dans la filière agricole. Mmh. J'ai quitté l'enseignement général. Donc j'ai fait à l'époque un brevet de technicien agricole. Aujourd'hui, c'est un bac professionnel qui s'appelait gestion de la faune sauvage. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié à la connaissance de la faune, qu'elle soit d'ailleurs chassable ou protégée, comment on les compte, comment on va faire les recensements, leur biologie, leur comportement, etc. Et après, derrière, j'ai fait une formation d'un BTS gestion et protection de la nature avec une option plutôt liée à cette fois à l'accueil du public, à l'animation. Et c'est par ce biais-là que je suis rentré à l'ONF, au départ par le biais d'un stage. Mmh. Et puis après, j'ai fait toute ma carrière à l'office en évoluant, puisque j'ai commencé en tant qu'animateur nature auprès d'enfants.
Ouais.
Et puis après, j'ai fait tout ce qui était création de sentiers pédagogiques, de sites d'accueil, jusqu'à aujourd'hui gérer donc tous ces aspects équilibre faune-flore et tous ces aspects liés à la police de l'environnement.
D'accord, il faut avoir un bon bagage naturaliste, du coup, j'imagine.
Bah, il faut faire quand même pas mal de terrain, oui, ça nous est utile quand même, de savoir reconnaître les différents animaux, que ce soit les insectes, les oiseaux, que ce soit les plantes, pour justement derrière pouvoir mieux connaître le fonctionnement de l'écosystème forestier notamment.
D'accord, vous aviez une vraie passion enfin pour plus la biologie ou...
Ouais, c'est une passion plus pour les grands espaces et la nature quoi, au départ. Qui m'a fait choisir cette filière.
C'est un moyen de travailler dehors.
C'est ça.
D'accord. autre question du coup, donc si jamais quelqu'un s'intéresse à la chasse et voudrait par exemple passer son permis ou entrer dans une association, comment ça se passe ?
Alors, pour passer le permis de chasser, il faut se renseigner auprès des fédérations départementales des chasseurs, qui organisent chaque année plusieurs sessions. Donc, ça se passe vraiment de la même façon que le permis de conduire. Hein. Il y a une partie théorique et une partie pratique, hein, liées à la sécurité, à la manipulation des armes, à la reconnaissance des espèces. Et après, voilà, il y a un examen... Un examen donc théorique et pratique, et ensuite on a le permis. Une fois qu'on a le permis, il faut se rapprocher après de son association communale de chasse. Mmh. Donc il y en a une par commune, sauf sur les communes très urbanisées. Hein. Par exemple, Grenoble n'a pas d'association communale de chasse. Et à partir de là, on peut rentrer, se faire former, on va dire, entre guillemets, par des chasseurs plus expérimentés pour apprendre ce loisir.
D'accord. Est-ce que vous chassez ?
Oui, à titre personnel, oui.
D'accord. Ok. Et comment ça vous est venu ?
Ouais, ça, c'est chez moi, c'est plutôt une tradition familiale.
D'accord.
C'est de père en fils. Voilà, c'est une passion qui se perpétue.
Et j'imagine que du coup, vous avez déjà eu des débats avec des personnes qui sont contre la pratique ou que ça arrive souvent ce genre de.
Bah, forcément, c'est quand même une activité qui peut choquer des gens, qui est controversée. Donc oui, on a des débats et souvent intéressants hein, parce qu'effectivement, on peut discuter de la manière de gérer la faune sauvage, entre guillemets. Donc c'est des sujets souvent passionnés. Donc c'est des fois dur de garder, une objectivité dans ces débats-là. Mais je pense que c'est important aujourd'hui que les gens en parlent parce que c'est une activité qui fait partie intégrante de l'environnement qui, je le répète encore une fois, pour nous est utile. Pour maintenir ou rétablir des fois des équilibres rompus entre la faune et la flore. Mmh. Mais voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut débattre, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'activités nature, de loisirs, ou des activités professionnelles aussi dans l'environnement forestier. Donc il faut débattre de ça et trouver, les compromis les meilleurs. Quoi.
Il faut pouvoir discuter, c'est déjà ça.
Oui, ça me paraît essentiel. Hein.
Puis après, c'est aussi une question de quelle manière on chasse aussi. Parce qu'il y a plusieurs manières de chasser. On a beaucoup parlé de la vénerie sous terre. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un peu.
Alors, bah, ça, c'est effectivement, c'est un mode de chasse alors qui est pas lié aux espèces dont on a parlé. Hein,
non,
puisque
non,
c'est
ouais.
plus sur le renard et le blaireau. Donc nous, effectivement, on n'est pas... Il n'y a pas de chasse comme ça sur nos territoires, ici en montagne. Hein, c'est vraiment plus de la chasse au grand gibier.
Mmh.
Hein, donc... qui se fait essentiellement à l'approche ou à l'affût et aussi quelquefois en chasse avec des chiens. Voilà. Mais c'est effectivement, la vénerie, ce n'est pas des sujets sur lesquels nous, on intervient vraiment, quoi.
D'accord. Et il y a aussi beaucoup de photographes qui ont parlé donc de l'approche des animaux en disant que ça stressait beaucoup les animaux et qu'à ce titre-là, ils auraient préféré qu'on s'abstienne.
Alors, sur les... Aujourd'hui, on a un bon nombre d'activités de loisirs qui se sont développées en montagne, hein, notamment en Chartreuse aussi. Hein. Donc effectivement, toutes ces activités-là vont créer un stress pour l'animal, que ce soit le ski de rando, la raquette, la chasse, la photographie aussi, hein, parce que les animaux, ils nous sentent bien avant qu'on les voit, hein, donc ils savent où on est. Donc il faut essayer quelle que soit l'activité, d'essayer d'être le plus, on va dire... Le plus discret possible. Hein, un chasseur qui va se faire discret, d'ailleurs, il n'a pas bien le choix, sinon il n'y aura pas d'animaux, mais c'est pas plus stressant que d'autres activités, sans forcément, je dirais, un dérangement volontaire hein, de la part des gens qui réalisent ce loisir-là. Mais d'ailleurs, on ne voit pas forcément les animaux, mais ça peut les stresser également, notamment dans les périodes de fragilité d'hiver, où il faut quand même essayer de rester sur des circuits balisés, que ce soit en raquette, en ski. Alors, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais c'est là où les animaux sont les plus fragiles. Voilà.
Ouais, et on parle beaucoup de la chasse donc, et de la photo, mais on parle beaucoup moins des promeneurs et de toute l'activité touristique qu'on a en montagne. On ne parle pas beaucoup du bruit aussi, ni de la lumière. Est-ce que tout ça, ça joue beaucoup dans le dérangement de la faune ?
Bah, ça joue évidemment. Après, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont raisonnables, restent sur les sentiers balisés, pour se promener en famille, hein, ce qui est normal. Hein. La Chartreuse, c'est quand même un massif qui est très près des grandes agglomérations, donc il y a énormément de monde. Donc après, les animaux, ils ont aussi une forte capacité d'adaptation, heureusement. Donc après, voilà, il faut qu'on essaye chacun à mettre un petit peu du sien pour préserver la tranquillité au maximum de la faune, parce que souvent, on ne les voit pas. Hein. Mais on peut les déranger sans forcément les observer. Donc il y a des périodes de quiétude, notamment à cette période au printemps, où c'est la période des mises bas. Donc c'est là où il faut être très prudent, notamment avec les chiens. Et donc il y a une obligation de les tenir en laisse, hein, du 15 avril au 30 juin. Parce que même un chien qui pour nous, est notre chien de compagnie, bah, il a un bon nez et il suffit qu'il aille renifler ou lécher un petit chevrillard qui est couché hein, et sa mère risquerait de l'abandonner.
D'accord, ouais.
Donc voilà, il faut rester prudent, il faut rester sur les chemins, il faut tenir son chien en laisse. Si on trouve un petit chevrillard ou un petit fan de cerf, on ne le touche pas. Il n'est pas abandonné, sa mère est partie parce qu'elle nous a entendu arriver. Elle va revenir le récupérer et le fait de le toucher... Va mettre notre odeur dessus, elle risque de l'abandonner. Donc voilà, il faut le laisser et
d'accord.
Sa mère reviendra.
Vous faites des maraudes un peu sur les sentiers pour croiser des gens et leur expliquer ça ?
Bah là, notamment à l'occasion du déconfinement, on est beaucoup sortis hein, pour faire nos missions. Une de nos missions, donc c'est les missions de surveillance et de police. Hein. Bon là, on était plutôt dans la médiation, la sensibilisation, mais je pense que c'était nécessaire. Parce que les gens, après 2 mois de confinement, sont sortis. Les animaux, eux, après 2 mois de quiétude, ont vu beaucoup de monde arriver d'un coup. Et voilà, donc on a effectivement fait passer des messages. Voilà, il faut qu'on reste raisonnable et qu'on puisse partager la nature tous ensemble le mieux possible.
C'est un grand dilemme, ça, partager la nature et la protéger d'autre part. Parce que le Charmençon a été colonisé juste après le déconfinement. Il y a eu des bivouacs à n'en plus finir. Et les gens étaient réceptifs. Comment ils ont réagi
Globalement, on a affaire à des gens, qui sont réceptifs. Ils n'ont pas forcément une grande connaissance de l'environnement, mais ils ont quand même un respect, on va dire, au moins. Donc oui, nous, tous les messages qu'on a fait passer ont été entendus, ont été bien appréciés, et on n'a pas eu de problème particulier sur les zones que l'on a surveillées. On est allé sur la Dent de Crôle, on est allé sur Belfond, sur le Charmençon. Enfin, on a fait un petit peu des tournées sur l'ensemble des massifs où il y a beaucoup de monde. Bon voilà, on n'a pas vu énormément d'infractions. On a vu des comportements dans la dans la grande généralité qui était, on va dire, raisonnable. Mais après, il y avait du monde.
Ouais,
et
c'est ça,
donc
ça...
forcément, voilà, ça crée un dérangement, surtout après 2 mois sans personne.
Ouais. Après, c'est compliqué. Ça va être compliqué parce que là, on essaie de relancer le tourisme, surtout dans la région, surtout pour la Chartreuse. Relancer le tourisme, ça veut dire inciter les gens à venir. Et comment vous gérez, vous, en tant que... En tant que police et en même temps que médiateur, comment vous faites ?
Aujourd'hui, sur la Chartreuse, il y a quand même une organisation, il y a un réseau de sentiers balisés qui est important. Là, 90% des gens vont rester sur ces sentiers-là, de fait par la méconnaissance du site, parce que c'est plus sécurisant. Donc, on va dire que les gens sont assez bien canalisés. Après, tous ceux qui vont faire des sports un peu hors sentier, on va dire... Bah là, on essaye de faire passer des messages. On compte aussi sur eux pour être raisonnables et voilà, essayer de laisser le moins d'impact sur l'environnement en termes de bruit, en termes de pollution, en termes de nuisances. Voilà, après, certaines activités sont réglementées. On essaye de faire en sorte que la réglementation soit appliquée.
Donc, en gros, si on veut pouvoir continuer à profiter de la nature sans trop l'impacter, le but, ce serait de rester sur les sentiers et respecter les balisages, quoi.
Bah, l'idéal, oui, parce que les sentiers ont été réfléchis, ont été organisés de telle manière à permettre aux gens d'aller voir différentes zones du massif, mais aussi de les canaliser, bien évidemment. Hein. C'est aussi... l'objectif, c'est de sécuriser leur parcours, qu'il y ait le moins d'accidents possible. Donc voilà, c'est le conseil qu'on peut donner, c'est ça. C'est essayer de ne pas dépasser ses compétences, de bien rester sur les sentiers balisés, d'être équipé un minimum pour aller en montagne, parce que le temps peut vite tourner, surtout en Chartreuse. Donc voilà, il faut rester raisonnable et pas dépasser ses capacités physiques.
Le petit mot de la fin, est-ce que vous pouvez nous donner un endroit que vous aimez beaucoup en Chartreuse ?
Alors, il y a beaucoup d'endroits agréables en Chartreuse. Moi, je dirais que c'est vrai que toute la zone entre la Dent de Crolle et les Lances de Malissard, c'est une zone que je connais assez bien et sur laquelle j'aime bien aller. D'ailleurs, il y a un sentier de randonnée qui passe là, donc il y a du monde qui connaît ce territoire-là. Et c'est vrai que, y aller le matin tôt, par exemple, nous, quand on commence assez tôt le matin, c'est agréable d'être un peu seul dans la montagne.
Assez tôt le matin, c'est-à-dire ?
Quand on va faire des comptages de coq, on attaque à la pointe du jour, donc entre 4h30 et 5h du matin.
Pas trop monde à cette heure-là, ça va.
Donc, c'est assez calme. Après, le soir aussi, des fois, on redescend un peu tard. Donc voilà, c'est un massif qui est quand même assez diversifié et qui offre des paysages variés et assez agréables, quoi.
Eh bien, écoutez, je vous remercie, Xavier Pennin, d'être venu dans notre studio avec nous. Et on va se quitter sur un morceau choisi par notre technicien, qui est un titre bien à propos, qui s'appelle « La forêt ».
Merci.
Cool. à la maintenant qui t'enfuit, tirant ta révérence. La forêt de nouveau frémit, je profite du silence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune, un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé, situation compliquée, je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue. Dans la forêt, première détonation résonne. Un coup de feu, puis de mon corps qui frissonne.
Rentrée est arrivée.
Étant collégienne, je vais me faire plaisir avec 56 euros de réduction grâce aux 7 passes de mon pack loisirs.
Les parents aussi pourront se réjouir avec le pack resto si l'enfant est collégien d'un établissement public. Et le pack transport de la maternelle au lycée si l'enfant répond aux critères d'éligibilité. Transport, loisirs, restauration, préparez dès maintenant la rentrée scolaire de votre enfant. Inscription avant le 15 juillet sur www.isère.fr, rubrique pack rentrée. Le pack rentrée, un dispositif jeunesse du département de l'Isère.
Vous êtes sur Radio Couleur Chartreuse, c'est l'heure des convives du neuf. Nous étions tout à l'heure en direct avec Xavier Penin qui travaille à l'ONF. Voilà, il est 11h37 et nous allons passer aux informations locales. Avis aux heureux propriétaires de piscines, bien que le temps ne soit pas propice à la trempette, sachez que tout de même, en ce qui concerne le virus, il est neutralisé par le chlore, donc pas de panique. Le danger est toujours le même, c'est que la transmission s'effectue par les gouttelettes dégagées par la respiration et donc par les contacts physiques, transpiration, éternuement, larmes et autres crachats de celui qui boit la tasse par inadvertance. Enfin, plus sérieusement, le risque ne se situe pas dans l'eau, mais sur les échelles en métal, par exemple, et autres frites et bouées. Le Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnole informe tout de même que les plus petits bassins et les lacs sont plus propices à la survie du virus, car stagnants et non traités. À ce propos, le Pavillon Bleu a rendu public ce mardi les plages labellisées de son palmarès 2020. Donc elles sont au nombre de 24 et elles ont été distinguées. Donc il y en a deux nouvelles en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça prend en compte plusieurs critères qui sont qualitatifs, comme la qualité de l'eau de baignade et la gestion des déchets. Donc chartrousins que nous sommes, nous retiendrons celle de Savoie de Saint-Pierre d'Albigny, qui est la plage du lac de Carouge. Donc vous l'aurez sans doute remarqué, je suis seule pour animer les convives du neuf ce matin. Élise n'est pas là, mais elle n'a pas chômé pour autant. Elle a contacté la MJC de Voiron pour savoir ce qu'ils avaient mis en place pendant le confinement. Et c'est Yvette Bastard qui nous a répondu. Elle nous a expliqué qu'une newsletter avait été créée spécialement pour le confinement, avec un mot des professeurs et des liens vers des vidéos et des tutos d'activité, donc du contenu produit par les professeurs de la MJC ou bien trouvé sur Internet. C'était un moyen de garder le lien avec tous les adhérents, petits et grands, et d'occuper la plupart d'entre eux. Visiblement, ça a été très très apprécié de tous les adhérents. Et Yvette Bassard nous explique du coup comment ils ont géré ce déconfinement et ce qu'ils ont mis en place.
Toutes les activités reprennent. sauf le cirque éveil et le cirque enfant, en fait, ce sont des activités beaucoup plus compliquées à mettre en place pour respecter un protocole de sécurité convenable, on va dire. Parce que c'est pas possible de désinfecter tout un tas de matériel dans toutes les autres activités. En fait, le matériel, on demande aux gens d'apporter leur matériel, et par exemple pour les activités physiques, on demande aux participants de venir avec un tapis, une serviette.
Les professeurs et la MJC ont également organisé des cours de théâtre par visioconférence et dans des jardins en respectant les distances. Cours de théâtre qui vont pouvoir reprendre. On espère peut-être que le théâtre pourra continuer dans les jardins parce que c'est pas si mal.
Alors, sur les modalités d'inscription, donc là, ça concerne en fait les personnes qui sont déjà inscrites jusqu'à la fin de saison. Donc, normalement, on a la fin de la saison était le 20 juin. Donc là, on l'a prolongée d'une semaine, elle va jusqu'au 27 juin. Et les personnes qui sont déjà inscrites cette saison vont pouvoir se réinscrire. Donc là, on n'a pas encore la date, mais ce sera aux alentours du 20 juin. Et les inscriptions pour tous auront lieu à partir du samedi 12 septembre.
Je vous laisse avec Élise qui va vous donner encore quelques annonces.
Et oui, on passe tout de suite aux annonces locales. Le musée Mincieux, situé à Voiron, musée de peinture d'art contemporain, réouvre ses portes du mardi au dimanche de 14h à 18h. L'entrée est gratuite. Le musée limite sa capacité d'accueil à 20 visiteurs. Le masque est obligatoire pour les visiteurs de plus de 11 ans. Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition. Les réservations se font au 04 76 65 67 17 du mardi au samedi de 14h à 17h ou bien par mail à musée.mincieux, M-A-I-N-2-S-I-E-U-X, @paysvoironnais.com. Et également, dans les nouvelles, la réouverture progressive de la maison de l'emploi située à Voiron toujours, donc uniquement sur rendez-vous. Il faut bien évidemment venir seul avec un masque, respecter les distanciations sociales. Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition. Il faut prendre rendez-vous avant de se déplacer par téléphone au 04 76 93 17 18, du lundi au vendredi de 8h30 à midi, et de 13h30 à 17h. Vous pouvez également prendre rendez-vous par mail à maison.emploi@paysvoironnais.com. Ensuite, une bonne nouvelle pour tous les parents qui nous écoutent, les colonies de Saint-Hugues réouvrent. Et oui, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, inscrire vos enfants au séjour d'été organisé par les chalets de Saint-Hugues. 4 séjours déjà construits qui se dérouleront en juillet. Au programme, le premier séjour, le pays imaginaire, donc c'est 8 jours, 7 nuits, ça concerne les 4 ans, 14 ans. Une aventure en immersion dans une histoire extraordinaire avec une acquisition de compétences nouvelles, grands jeux éveillés, plus de 2 sorties par journée. Le deuxième séjour, c'est tout vu, 2 possibilités, 8 jours, 7 nuits ou 15 jours, 14 nuits pour les 8-17 ans. Un séjour aventure visuelle en lien avec le musée Arcabas et l'association Bruitecourt, un savant mélange entre art traditionnel et nouvelles technologies. 2 sorties par journée, des veillées et des grands jeux pour un séjour extraordinaire. Le troisième séjour, les glisseurs extrêmes, 8 jours 7 nuits pour les 12-17 ans, une semaine pour progresser de façon ludique en mountain board, big air bag et trottinette électrique. Et enfin, les Robinson des Bois, 8 jours 7 nuits pour les 12-17 ans, un séjour construit avec les accompagnateurs montagne de la Cartusiana, la survie en montagne, la découverte de la nature, des nuits en bivouac, un vrai séjour d'aventurier. Donc pour tous les renseignements, vous pouvez contacter Guillaume Chassagnon qui est chargé de développement des séjours au 04 76 94 46 99 et également par mail leschaletsainthugues@gmail.com. Nous avons plus d'informations concernant les travaux entre Saint-Laurent-du-Pont et Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc, il se situe sous le tunnel de Fourvoirie qu'il y a des travaux de maintenance et de mise à jour de l'éclairage. Donc ça commence aujourd'hui jusqu'au 12 juin, donc vendredi. C'est l'entreprise Enfracis qui s'en charge. La circulation est interdite entre Saint-Laurent-du-Pont et Saint-Pierre entre 21h et 6h du matin. Et elle sera rétablie le 12 juin à 6h du matin au plus tard. Et enfin, pour finir, l'AADEC propose des stages de théâtre le week-end du 27 et 28 juin. Donc ce sont pour les adolescents de 12 ans à 18 ans. Ça commence à 10h30 et ça finit à 16h30 à Saint-Pierre-d'Entremont. Pour vous accompagner, Florian Berger et Aurore Vincent, qui sont des artistes chorégraphiques, mais pas que. Donc c'est aux frontières entre le cirque, le théâtre et la danse. Nous vous invitons à développer votre créativité et votre imaginaire le temps d'un week-end. On les reçoit demain pour plus d'informations. C'est fini pour les infos locales. À toi, Madeleine.
C'est fini sans être fini parce que j'ai encore une petite information. Il s'agit de deux conseils municipaux qui se réunissent ce mardi soir. Donc si ça vous intéresse, il y a le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Pont qui se réunit à 20h30 à la salle des fêtes du Révol et celui de Saint-Joseph-de-Rivière qui se réunit ce soir même à 20h à la salle d'animation rurale. Et comme le temps file, nous n'avons pas le temps d'écouter notre conseil culture parce qu'on l'a déjà passé hier. On va donc passer à une petite nouveauté. Nous avons Nathalie Thomas et elle va nous raconter son compte quotidien qui sera donc différent de celui d'hier. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Ça va très bien, merci. C'est Madeleine ?
Oui, c'est Madeleine.
Oui, j'étais pas sûre. J'entends un petit peu loin aujourd'hui. Je vous entends loin, mais c'est à cause du rideau de pluie.
Oh mince.
Tout va bien.
Tu vas pouvoir nous raconter un conte ?
Oui.
Très bien. Et alors, que se passe-t-il aujourd'hui ?
Alors, vous savez, donc, Raymond est devenu quand même très célèbre au cours de sa longue vie et de son expertise et de toutes ses aventures extraordinaires. Et c'est comme ça qu'un jour, il a vu débarquer un jeune apprenti qui voulait absolument se mettre à son service et surtout apprendre toute sa science, apprendre toute son intuition. Et donc, quand l'apprenti est arrivé chez Raymond, il lui a dit, ben voilà, je suis allé dans la plus grande capitale du savoir européen, j'ai étudié dans les plus grandes bibliothèques, je suis allé suivre les cours des plus grands maîtres de philosophie, donc maintenant je pense que je suis prêt à me mettre à votre service et à apprendre avec vous. Et Raymond lui a dit, mais quel dommage que vos maîtres ne vous aient pas plus étudié vous.
La chute est toujours tragique.
Elle est dure, hein. Je vous ai dit hier, attention à la chute, et en plus hier c'était une vraie chute.
Oui, 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 exactement. Ouais. Oh là là. Bon.
Voilà, désolé, hein, mais il n'est pas resté du coup l'apprenti.
Oh, triste. On ne sait pas ce qu'il est devenu.
Bah oui, mais bon, Raymond, c'est Raymond. Il est unique, il est irremplaçable. Il n'y en aura jamais deux, hein.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, il aura sûrement trouvé un autre maître.
Comme le PMU a rouvert, je l'ai retrouvé. J'ai pu lui dire que je l'avais un petit peu utilisé pendant tout le confinement et qu'il était devenu mon personnage principal. Ça l'a beaucoup fait rire.
Ça l'a beaucoup fait rire, bon.
Oui.
Eh bah, tant mieux.
Voilà.
Bah, merci beaucoup, Nathalie.
Merci à vous.
Bonne journée.
Merci, à bientôt.
Et on va donc passer à la dédicace musicale de Nathalie qu'elle n'a pas eu le temps de nous donner parce que j'ai oublié de la lui faire dire. Donc cette dédicace, c'est Gibraltar de Abdelmalik.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra, comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangster rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir que la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin « je t'aime » à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent, ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit « Ramons tous à la même cadence !» Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme. Sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc.
Vous êtes bien sur Radio Couleur Chartreuse. C'est bientôt la fin des convives du 9, il est 11h51. Nous allons terminer cette émission sur une musique, une dédicace de Lucas pour sa maman, parce que c'était la fête des mères, c'est une musique d'Ozone. Donc je vais vous dire au revoir et je remercie Xavier Pénin d'être venu nous parler donc de son activité à l'ONF. Je remercie Élise aussi pour son travail en amont et Lucas à la technique. Si cette émission vous a plu ou si elle vous a été utile ou même si ce n'est pas le cas du tout, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ça nous fera plaisir. Si vous avez des informations à faire passer à l'antenne ou si vous souhaitez vous exprimer tout simplement, pour cela vous avez un numéro, le 06 45 00 36 45. Ou le contact mail contact@radio-couleur-chartreuse.org. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission dès ce soir à 18h ou bien en podcast à partir de demain matin. Continuez à vous protéger, restez positifs, belle fin de journée à tous, presque un tout petit peu ensoleillé on espère, mais peu d'espoir. Et à demain, mercredi.
Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei.
Te sun, te sun, să-ți spun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.
Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic. Dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei.
Mai ahi, mai ahu, mai aho, mai aha, mai ahi, mai ahu.